Ayant réuni un public nombreux et enthousiaste, je vais commencer. un texte. Donc, la peut-être première question, on a parlé d'auteurs aquitains, ils étaient tous de la Dordogne, là. Hein. Mais moi, Dordogne, c'est loin, là, on cherche les auteurs bordelais. Alors, qui sont les auteurs bordelais? Qui sont les auteurs bordelais? On va commencer par les plus récents, je ne sais pas, il doit y avoir Laurent Kessy, Sylvie Denis, André-François Ruault, Patrick Marcel, Jean-Daniel Breck, Francis Valéry. Si, encore pas trop loin. Pierre Bameul, bon. Pierre Christin, n'oublions pas. François Borde, évidemment, on en a parlé ce matin. C'est sans doute le plus ancien, mais pas le plus ancien forcément par la date de naissance. C'est le plus ancien par la date de publication des œuvres, mais qu'est-ce qui nous reste? On brûle quand on est à Francis Carsac, on arrive à Robert Escarpite. Alors pourquoi je vous parle de Robert Escarpite? Parce qu'en fait, c'est une affaire de famille. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je vivais à Bordeaux, et mes parents connaissaient un peu Robert Escarpite, ma mère en particulier, ce qui fait que je l'ai rencontré, mais quand j'étais gamin. Donc, je ne peux pas dire que je vais parler. Hein. J'étais petit gamin, puis il y avait « Ah, c'est Escarpite, c'est le grand Robert Escarpite. Voilà, c'est lui. » Donc, je suis l'homme qui a vu l'ours, directement. Et j'en ai toujours gardé une espèce de fascination et d'envie. Et puis, j'ai lu le Littératron, parce que mes parents l'avaient. De même qu'ils avaient beaucoup de bouquins de Robert Escarpite, la plupart... Pas tous, les bouquins sur cette table, mais une bonne partie sont tirés de la bibliothèque de mes parents quand on a vidé appartement après leur mort. Et aussi, ma mère avait collaboré à Nous voulons lire, qui était un projet, lui, de Denise Escarpite, l'épouse de Robert Escarpite. Et puis, ensuite, j'ai entendu parler d'Honorius Pape, je l'ai lu, et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, on va reprendre les choses par le début. Qui fut Robert Escarpite? Qui fut Robert Escarpite, c'est un peu difficile à dire. Quand Nicole Robin a écrit un hommage à l'occasion de son décès en 2001, il est mort en 2000, elle dit lesquels Robert Escarpite évoquait? Le journaliste, l'écrivain essayiste, le romancier à succès, l'auteur de livres pour enfants, le militant, le chercheur universitaire, l'expert international pour l'UNESCO, le grand voyageur, ou... le spécialiste de Byron, mais aussi de l'humour, le théoricien du livre, mais aussi des sciences de l'information et de la communication. Et tout ça est vrai, et c'est bien le même Escarpite. Hein, parce que Pascal Thomas, vous savez qu'il a fait beaucoup de choses, mais vous savez aussi que c'est pas moi. Non, mais Robert Escarpite, par contre, merci Nathalie, il n'y en a qu'un. Il a même cherché les Escarpites, il n'en a pas trouvé beaucoup. Robert Escarpite, il est né en avril 1918 à Saint-Macaire. Tout le monde sait où est Saint-Macaire, c'est en face de Langon. Donc, pour ceux qui ne sont pas du Bordelais, c'est dans l'Entre-deux-Mers. Alors, j'ai constaté qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'Entre-deux-Mers, ça c'est quand même gênant. L'Entre-deux-Mers est entre les deux mers que sont la Dordogne et la Garonne, ok? C'est des mers. Hein, c'est des mers parce que la marée y remonte, et c'est bien utile pour l'Airbus A380. Donc, en fait, Robert Escarpite est né à Saint-Macaire, qui est en face de Langon, rive droite de la Garonne, mais sa famille était de Toulaine, et Toulaine, c'est un faubourg au nord de Langon. Hein, c'est une commune indépendante, mais c'est vraiment maintenant une banlieue. De Langon, donc quarantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux, en suivant la Garonne. Ses parents sont instituteurs. Il est bon élève et il dit « Je n'écrivis rien ». Alors il dit dans son autobiographie que je vais beaucoup citer, qui s'appelle « Par la mémoire d'un Gaulois ». Pourquoi un Gaulois? Parce que c'est sorti en 68 et que Astérix faisait vendre, donc il s'est déclaré Gaulois. Je n'écrivais rien de notable jusqu'à l'adolescence, à part une tragédie en cinq actes et en vers intitulée Farsal, et les trois premières pages d'un roman de science-fiction, inspiré par un feuilleton de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest. Ouais, je pense pas que ces trois pages aient été gardées. En tout cas, en 1934, il passe son bac, et il se pose la question de ce qu'il doit faire. Alors, il dit, bon, les mathématiques, la physique, la chimie sont des choses qui se comprennent et s'apprennent. Donc, c'est un type réaliste. Il n'y a là rien d'insurmontable, mais l'indéfinissable talent que demandent les lettres et dont je n'avais pas encore découvert l'imposture m'inspirait une terreur d'autant plus grande que je ne voyais vraiment pas comment l'acquérir. Donc, en fait, il y a un oncle qui dit « Tiens, tu te débrouilles en anglais, tu vas faire anglais », et il fait en même temps une cagne à Montaigne et une licence d'anglais qu'il obtient par raccro et par hasard, du moins si on croit ce qu'il raconte. Il y avait pas mal d'humour, hein, bien sûr. En même temps qu'il fait tout ça, il collabore au journal de la SFIO qui s'appelait l'Unité Socialiste, de la SFIO de la Gironde. Oui, la SFIO. Hein, section française de l'Internationale ouvrière, hein, qui fut longtemps le nom de ce qu'est devenu le Parti socialiste après beaucoup de transformations. Il publie, et en même temps qu'il donc, travaille sur le journal de la SFIO, il y avait les presses coopératives qui étaient liées au journal de la SFIO, et du coup il publie des textes aux presses coopératives, il publie un recueil de contes inspirés par l'Angleterre, et aussi, dans son activité de journaliste qui avait 18 ans, hein, il va en Espagne, c'est en 36, c'est la guerre civile qui commence, et il va sur les lieux des combats, et il rentre dans des circonstances plutôt rocambolesques. Il raconte que quand il franchit la frontière, il y a un type qui dit « No disparaissez un periodista francés !» Bon, d'accord. Et il y a quand même une balle qui lui passe à côté de l'oreille, et quand il rencontre un gendarme, il dit « Je l'ai trouvé beau !» Ce qui n'était pas trop son opinion, c'était un militant, disons socialiste, ouvrier. Il obtient sa licence d'anglais, il reprend sa canne, il rentre à l'école normale supérieure en 38. Évidemment, en 39, lorsque Haïti devient un peu compliqué, parce qu'il est mobilisé, il se trouve faire le planton devant l'appartement ou la maison qui sert de siège provisoire au gouvernement français à Bordeaux pendant un jour ou deux. Il se rend compte que c'est vraiment la débâcle totale. Il voit ce que c'est. Il revient à Paris sous l'occupation, il rencontre sa future femme. Il a des enfants, il se débrouille pour passer son anglais, finir son école normale supérieure, commencer à enseigner au lycée l'anglais, et puis refaire une période militaire dans le combat pour les poches du Médoc. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Oui ? Les poches du Médoc. Après 1944, quand les Américains, les Anglais et les Français sont arrivés par le nord et par le sud, dans le sud-ouest, dans quelques points du littoral atlantique, Hitler a dit « Festum, on va rester et résister ». Donc il y avait des Allemands qui étaient restés dans le Médoc, ça ne servait à rien du point de vue militaire. Donc les Français ont décidé de les attaquer, ça ne servait à rien du point de vue militaire. Ouais, d'accord, bon. Et il y a eu pas mal de morts, et Scarfitte a participé au combat, et il y a eu une décoration.
La libération du sud-ouest par les forces françaises, il n'y a pas eu d'étrangers.
Voilà, c'était assez politique, voilà. Ensuite, il se retrouve à travailler à Paris dans un ministère et il explique « Je traduisais, ça t'intéressera Nathalie, je traduisais paresseusement la correspondance de von Rundstedt avec sa femme. C'était un document ultra secret et je devais chaque soir le replacer dans un coffre-fort. Cependant, ma tâche était considérablement facilitée par le fait que les Américains avaient depuis longtemps traduit et publié cette correspondance et que des extraits en paraissaient dans un journal du soir. Toujours ça, c'est toujours extrait de ses mémoires. Et puis, finalement, il y a un copain qui travaille dans le ministère d'en face, et puis il tombe sur monsieur, il s'appelait Marx, curieusement, qui dirigeait vaguement un service indéterminé, dit-il. Et bon, il sait que le poste de secrétaire général de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico est à pourvoir. Alors, monsieur Marx, il va le rencontrer, et monsieur Marx saisit un téléphone. « Allô, monsieur le directeur général, j'ai quelqu'un pour Mexico, un jeune agrégé d'espagnol. » Alors là, Scarpie interrompt. « D'anglais ?» Je veux dire un jeune agrégé d'anglais, mais qui parle très bien l'espagnol. J'en sais pas un mot. Marx mit la main sur le téléphone et me regarda sévèrement. Vous n'allez pas faire de difficultés, mon petit. Et hop, il part pour Mexico, mais pas tout de suite, parce que le gouvernement français n'avait pas un radis, parce qu'il fallait y aller en bateau. Donc il sort, avant de partir, il attend de rencontrer du côté de, je sais plus, un nouveau quotidien du soir qui se lançait. Il rencontre M. Boeuf-Méry, bien sûr, et lui dit je parcours la Amérique latine, je peux vous faire des billets. Et l'autre lui dit bon, écoute, ouais, on va voir, c'est pas trop mauvais. Donc il commence à envoyer des billets. Il raconte que la première a causé un incident diplomatique avec le Portugal, parce qu'il s'est embarqué à Lisbonne, avec femme et enfant, il avait deux filles à l'époque, en bas âge. Il va donc de Lisbonne à New York en passant par la Havane. Ça a pris un moment. Il prend le train de New York jusqu'à Mexico. Sa fille manque mourir d'une fièvre grave. Dans le train, il dit que personne ne l'a aidé, mais bon, finalement, il trouve un médecin juif qui lui fait crédit. Bon, c'est assez compliqué. Il arrive au Mexique, et au Mexique, il est enchanté. Il y reste 3 ans. Et il dit que son séjour se termine prématurément en 1946 à cause d'un conseiller du ministère qui était hostile, qui était un mec pas important, mais qui avait l'oreille de Paul Reynaud. Et alors, il est reçu par le directeur de cabinet qui lui dit, bon, sachant que quelqu'un veut sa tête, veut la tête d'Escarpite, « Mon jeune ami, croyez bien qu'entre sacrifier ma carrière et sacrifier la vôtre, je n'hésiterai pas une seconde. » Et il se retrouve rentré en France. Après, donc, 3 ans passés au Mexique, il faut quand même voir qu'Escarpite a été très marqué par le Mexique, qui est retourné souvent, a publié des livres qu'il a écrits en espagnol.
Hein,
Oui, il a quand même appris l'espagnol, au passage, et il a écrit des livres en espagnol, comme par exemple une histoire de la littérature française, qui fait 200 pages quand même, c'est pas rien, un manuel d'enseignement du français pour les hispanophones, et puis un livre sur le Mexique qui s'appelle Contracorrientes Mexicanas, Baratillo de Impresiones e Ideas, qui a été publié au Mexique, je crois pas que c'était traduit en français. Donc, il rentre à Bordeaux, en fait, il dit qu'il voulait aller partout sauf à Bordeaux, mais c'est à Bordeaux qu'on lui pose un poste d'assistant, puis maître de conférence en anglais à la fac des lettres. Il soutient une thèse sur Byron en 1952. Il avait commencé cette thèse depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Et ça, apparemment, il veut expliquer que Byron était un humoriste. Mais les gens ne se sont pas rendus compte. Et on l'a forcé à être un romantique. Et en 51, pardon, un an avant sa thèse, il devient maître de conférence en littérature comparée. Alors il dit aux gars qui veulent le nommer en littérature comparée, mais qui n'a jamais fait, qui ne sait pas ce que c'est littérature comparée. Et le prof lui répond, c'est pas à vous de dire qui est comparatiste et qui ne l'est pas. Un de vos patrons de thèse le dit, cela doit vous suffire. Bon, je veux dire, Escarpite n'a jamais cessé de se moquer de l'université, même s'il n'a jamais cessé de travailler pour elle. Hein. Et donc, il publie des livres de critique littéraire, si on veut. Il publie un que sais-je sur la sociologie et littérature en 1958, c'est lui qui a contribué à créer ce genre de sujet. Et il publie aussi le que sais-je sur l'humour en 1960. Escarpite est aussi quelqu'un qui a une idée assez claire sur la culture. Pour lui, la culture, c'est quelque chose de masse. Et l'avant-gardisme, les créations culturelles d'élite, ça ne lui plaît pas du tout. En 1960, donc, ils fondent un truc qui s'appelle le Centre de sociologie et faits littéraires, qui devient en 1965 l'Institut de littérature et de techniques artistiques de masse. Et c'est à l'origine de ce que, dans les universités du monde entier, sauf à Bordeaux, on appelle l'école de Bordeaux. D'après Nicole Robin, qui est toujours tirée de l'hommage à Robert Escarpite, qui est publié sous une forme d'un mince fascicule. Donc, Escarpite considère, et c'était quand même novateur, qu'il faut prendre en compte le lectorat, il faut regarder qui lit. Il fait des enquêtes. C'est à la suite d'une enquête sur les lectures des conscrits, par exemple, qu'il découvre San Antonio, dont il devient un fan enthousiaste. Hein. Il est le premier à organiser des colloques universitaires sur San Antonio. Et puis, bien sûr, il considère qu'il faut s'intéresser aux paralittératures. Il ne le dit pas, il ne dit jamais paralittérature, mais c'est ce qu'on appelle les paralittératures, hein, dans tout ce qui n'est pas la littérature consacrée. Mais en même temps, lui, il voulait aussi écrire. Il avait écrit des contes en 36 quand il était adolescent. Il fait le Conte et légende du Mexique, si vous vous souvenez de la série Conte et légende. Hein. Le Mexique, c'est Escarpite, en 56. Le premier roman qu'il réussit à sortir, c'est Les Dieux du Patamba, qui est aussi dans un cadre mexicain, je pense. J'ai pas lu celui-là. Et puis en 60, le succès vient avec Peinture fraîche, qui était une œuvre qu'il avait écrite quelques années auparavant, qui ressort et qui gagne un grand prix de l'Académie de l'humour. Il y a un autre roman en 62, je passe vite. Le premier roman qui commence à flirter avec la science-fiction, c'est Le Littératron, en 64. C'est sans doute son livre le plus connu, enfin son livre de fiction le plus connu, qui raconte... Je le détaillerai plus tard. Ensuite, il y a Honorius Pape, qui est aussi complètement de la SF. Alors, totalement, c'était un roman post-apocalyptique en 67. Un recueil de nouvelles, Le Fabricant de Nuages, en 69. Ça, c'est Honorius Pape, Le Fabricant de Nuages. Et Les Somnambidules, qui est c'est la chronolyse deux ans avant le temps incertain, 71. Non, sans rire. T'as lu Les Somnambidules, André-François ? Tu devrais. Et Le Ministricule en 74, qui est une suite directe du Littératron, mais updatée, c'est-à-dire que tant le Littératron que le Ministricule se déroulent à l'époque de leur publication. Hein, c'est comme les romans de Jules Verne, ils sont dans un présent fantasmé, déformé. Bien, alors tout cela, à mon avis, sur cette période de 64 à 74, ces cinq ouvrages relèvent de la SF, mais ça peut se discuter, et je détaillerai la chose plus tard. Après, Escarpite est entre Saint-Macaire et Langon. Quand on regarde vers le nord-est, vers le coteau, du rivière de la Garonne, depuis Saint-Macaire ou Langon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le haut du coteau, on voit une rangée de cyprès, et au bout, une maison qui est Malagar. La fameuse propriété de François Mauriac. Escarpite s'est toujours senti sous le regard de François Mauriac, s'est toujours senti quelque part obsédé par cette présence de François Mauriac qui peut-être aussi, prenait la place du point de vue des Parisiens. L'écrivain bordelais, il y en a un, c'est Mauriac. Derrière, il y a Escarpite. de sortir. Et en 75, il fait un bouquin qui s'appelle « Appelez-moi Thérèse », qui est Thérèse Descayrou, racontée du point de vue de Thérèse Descayrou, paraît-il. Je ne l'ai pas lu non plus, mais ça doit être quelque chose. Pendant ce temps-là, bien sûr, il publie à peu près aussi fréquemment, sinon plus fréquemment, des essais, en particulier une lettre ouverte à Dieu et une lettre ouverte au diable, quelques années plus tard, parce qu'il avait le sens de l'équilibre. Les paramémoires d'un Gaulois, dont je vous ai lu quelques extraits, qui sont des mémoires à rouler par terre de rire la plupart du temps. Et puis, pendant ce temps-là, il travaille aussi, il est universitaire, il enseigne, il était enseignant-chercheur en littérature comparée, mais l'université devient un truc... Alors, il publie aussi de nombreux rapports, enfin, il publie pas, il écrit de nombreux rapports pour l'UNESCO, parce qu'il est devenu un expert du livre. Il a écrit La Révolution du Livre en 1965, qui est un ouvrage, disons, documentaire sur les changements des modes de lecture et l'avenir du livre. Et La Fin de Lire en 72, qui est, je crois, avec un monsieur Ronald Barker, que je ne connais pas, qui est, je crois, parce que je ne l'ai pas lu non plus, je n'ai pas tout lu, il a écrit une cinquantaine d'ouvrages. Excusez-moi, je ne peux pas répondre. un ouvrage sur le développement de la lecture dans les pays moins développés. Pendant les années 60, donc, Escarpit s'intéresse à un développement d'un enseignement professionnalisé et de masse dans l'université, qui était quand même assez nouveau à l'époque. Il participe à la fondation du premier IUT qui s'occupe de métiers du tertiaire, et particulièrement le journalisme, les métiers du livre, les carrières sociales, et plus tard la documentation et la publicité. Cet IUT, son titre de gloire, du moins le titre de gloire du département de métiers du livre, c'est que de 1982 à 1984, André François Ruault était un étudiant là-bas. Hein, pas de mouton électrique sans Robert Escarpit. Et puis il crée aussi des filières d'études à l'université. Il devient directeur de l'UT pendant 5 ans, il devient président de l'université de 75 à 78, voilà. Et puis pendant ce temps-là, il restait du temps, alors il a aussi créé une nouvelle discipline universitaire, information et communication, donc qui a été très officiellement créée en 75 comme une section de ce qui était le conseil consultatif de l'université, qui est devenu le CNU, hein. Et c'est la section donc information et communication dans laquelle enseigne Sylvie Lainé, hein, qui est, comme vous le savez, universitaire aussi. Il a continué à faire de la politique, il était compagnon de route du Parti communiste, mais un peu trop individualiste. Un de ses collègues, qui n'était pas trop communiste par contre, lui disait « Prends donc ta carte, si t'acceptes, ils sont fichus !» Il a quand même été conseiller régional d'Aquitaine pendant 6 ans sur la liste du Parti communiste. Il a été aussi visiteur fréquent en Albanie et partisan et turiféraire de Enver Hoxha, ce que n'est pas la partie la plus glorieuse, à mon avis, de sa carrière. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a écrite. Bon, alors à la fin des années 70, il écrit un peu moins, il n'écrit pas de littérature tellement. Il écrit des récits, il écrit justement un récit de sa guerre dans le Médoc qui s'appelle Les Va-nu-pieds, qui sort en 82. Il dirige l'ouvrage collectif La Gascogne, pays, nation, région, parce qu'il a toujours été attaché aux Gascons et à l'Occitan en général, qui parlait bien sûr. Il va revenir à la fiction avec des romans historiques, Les Voyages à Zambat, un marin, c'est sur 84, 85, 86, un gros bouquin. 84, il a pris sa retraite de professeur d'université, donc il s'est remis à écrire beaucoup. Et puis aussi, j'ai oublié encore une autre chose, c'est que sa femme, pendant ce temps-là, qui est devenue assez active, est devenue une spécialiste vraiment reconnue de tous de la littérature pour la jeunesse. Parce que là aussi, c'est un autre aspect de la littérature non blanche, de la littérature pour les jeunes, qui demandait à être étudiée. Et la revue Nous voulons lire, qui existe toujours, a été lancée par Denise Escarpit à Bordeaux. Robert a participé un peu, mais là dans un rôle secondaire. Par contre, il s'est mis à écrire des bouquins pour la jeunesse. Le premier, c'est peut-être les contes de la Saint-Glinglin, en 73, qui sont des explications fantaisistes d'expression courante. À partir de 78, les aventures du journaliste Rouletabosse, illustrées par l'auteur. Hein, et puis, il y a un album pour les petits qui s'appelle « Être bellou des soufirs », qui est en Béarnais de la Vallée d'Aspe, parce qu'il avait des ancêtres. Il avait des ancêtres du côté de sa mère, qui venaient d'Orthez, hein. Tu as noté, Francis, hein, ouais. Où est-ce qu'il est, Francis? Il est là, voilà. Incognito, les lunettes noires. Donc, tu vois, bon sang ne saurait mentir. Alors, il y a des escarpites chez vous? Il n'y a pas seulement un langon, alors. Voilà, bon, escarpite, ça veut dire encharpie, en gascon. Hein. C'est le même, déchiré, en haillon. Bon. Après, il continue dans la jeunesse, et c'est là qu'il va avoir une reconnaissance du milieu de la SF. Il gagne pour un court roman paru dans Je bouquine en 1984 qui s'appelait L'enfant venu de l'espace. Le Grand Prix de la SF française dans la catégorie jeunesse. Et puis, il publie aussi dans Je bouquine le Pilfastron, que j'ai pas lu, mais qui est apparemment un aspect SF, c'est sur les statistiques. Et aussi, dernier bouquin de SF pour la jeunesse, Le petit dieu au crabe, qui est très rigolo aussi. C'est un bouquin pour la jeunesse sur la religion. J'essaierai de vous lire des extraits. Côté littérature pour adultes, le dernier bouquin qui paraît est en 1992, qui s'appelle Un si beau jour pour mourir. C'est en fait un récit plus qu'un roman, c'est le récit de la vie de son grand-père, Oswald Escarpite, et il décède en 2000. Il a laissé une descendance un peu compliquée. Il y a eu 3 enfants de sa femme Denise qui sont nés dans les années 40. Françoise Escarpite, qui était sa fille aînée, a elle-même une carrière de spécialiste d'Amérique latine et pas mal de bouquins à son nom que je n'ai pas lu. Denise Escarpite a bien sûr sa femme, qui est morte qu'en 2015, hein, à Arcachon. A beaucoup publié des ouvrages d'études de la littérature pour la jeunesse. Il a un fils né en 69 à Tel Aviv, sur lequel je ne sais rien. Et il a un fils né en 1980. Je vous rappelle que Robert Escarpite était de 1918 et sa femme de 1920. Donc il a un fils né en 1980, David Escarpite. Alors lui, j'ai rencontré, par contre. C'est un. Il vient de soutenir en février 2016 une thèse sur l'écrit politique en Occitan dans la Gironde au XIXe siècle. Voilà. À l'université Michel Montaigne, ici à Bordeaux. Dernier détail, si vous allez un peu quelques kilomètres en d'ici, sur le campus de Talence, il y a maintenant une rue Robert Escarpite. Maintenant, venons-en à la fiction. Alors, le petit dieu, je vais commencer par les bouquins pour la jeunesse, parce que c'est là que tout le monde reconnaît que c'est de la SF, donc la question ne se pose pas. Le petit dieu au crabe, c'est un petit dieu, c'est un peu comme dans Malpertuis, c'est un petit dieu qui est vraiment... ses affaires ne marchent pas bien, parce qu'il a trop peu de croyants, et donc il vient sur Terre, parce que la Terre est, c'était sur Terre qu'avaient été fondées les puissantes sociétés religieuses multiplanétaires avec leurs grandes surfaces, synagogues, temples, cathédrales, mosquées, pagodes. La Terre, pour l'industrie de la religion, ils sont forts. Donc Okrab vient là pour recruter des croyants en lui qui lui donneront plus de puissance. Il précise même que sa puissance augmente comme le carré du nombre des fidèles. Son premier fidèle, il n'en a qu'un sur Terre, c'est un gamin, bon c'est un roman pour la jeunesse. Et alors il explique comment recruter. Tu as entendu parler de la Bible, du Coran ? Oui, bien sûr. Eh bien, pour les religions, ces livres-là, c'est un peu comme le catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses. Ça fait vendre. Voilà, tout le livre est sur ce ton-là. À la fin, le petit dieu au crabe, qui est un dieu sympathique, explique aux hommes que finalement, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de dieu. Robert Escarpite a toujours été un militant laïque. L'enfant venu de l'espace... Alors, elle est mieux connue par les fans de SF parce qu'il y a des illustrations de Casa, ça a été plusieurs fois réédité. Et alors là, c'est de la SF au carré. C'est de la SF sur la SF, puisque les personnages du livre sont essentiellement Isaac Asimov et Suzanne Calvin, qui l'orthographie bizarrement avec un Z, S-U-Z-A-N. C'est paru dans Je bouquine, je l'ai déjà dit, en fait. Ça a été réédité plusieurs fois avec différentes couvertures, mais toujours les mêmes illustrations de Casa. Et donc nous sommes en 2010, donc le bouquin a été écrit en 84, et Isaac Asimov, qui est bien vieux, rend visite à Suzanne Calvin, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle existe vraiment. Et elle dirige un laboratoire de robotique, elle est très rangée, mais pas aussi, peu séduisante que Asimov l'avait décrite à l'âge de 50 ans dans ses histoires de robots. Ils échangent des propos sur l'auteur et son écrivain. Alors bon, finalement, Asimov lui dit des choses sur elle dont elle ne pensait pas que Asimov pouvait les savoir, mais en même temps, elle sait des choses sur elle-même qu'Asimov ne sait pas quand même. Et elle lui raconte ce qui s'est passé 5 ans avant, quand à cause d'une crise, elle avait dû prendre des vacances et il y avait une crise de vente de robots parce que les robots étaient trop protecteurs des humains, ça gênait les gens, tu vois. On les empêchait de boire un verre de bière ou une tasse de café supplémentaire parce que c'était mauvais pour leur santé. Alors ça, les gens supportaient plus, donc on n'arrivait plus à vendre ces robots-là. Et donc, elle part en vacances sur une propriété familiale, une île au large des côtes de la Californie du Sud, et elle tombe sur une soucoupe volante. Et là, bon, elle est jeune et très séduisante, et Casa la dessine de façon adaptée. Et elle a un enfant avec le capitaine extraterrestre de la soucoupe volante en question. Bon, voilà. Donc, l'histoire est plus compliquée. Et cet enfant disparaît et ensuite, je vous spoil un peu, il réapparaît sous forme d'un pain maritime. Mutant, bizarre. Voilà. C'est un peu le même genre de situation qu'on trouve, c'est-à-dire la rencontre entre un personnage et son auteur dans Futur antérieur, qui est une des nouvelles des Fabricants de nuages, paru en 71. Mais là, bon, sur un mode adulte et avec un texte qui utilise beaucoup de maths. Je vais donc sauter, même si je sais que vous vouliez avoir un cours de mathématiques de ma part. Je vais... Donc, Futur antérieur, c'est... Il y a deux univers, mais qui ne sont pas vraiment parallèles. L'écoulement du temps est très différent, il y a une fonction compliquée entre les deux, ce qui fait qu'il y a un jeu entre l'auteur, Georges Laliment, donc on suppose qu'il fait de la littérature alimentaire, et son personnage, qui, dans son monde, lui, est auteur, et l'auteur est son personnage. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres textes dans ce recueil qui, à mon avis, les deux tiers du recueil sont de la SF. Je vous en résume un, simplement, Anti-Babel. C'est le seul qui se situe explicitement dans le futur. L'ONU a beaucoup plus de membres qu'avant. Ils ont 800 langues de travail et, bien sûr, des machines pour faire la traduction automatique. Et puis, on a récemment rajouté l'Ogapi, qui n'a que 14 locuteurs vivants. Et puis, il y a un bug. Et une sorte de virus se développe qui fait que toutes les langues sont effacées du système de traduction automatique des Nations Unies, sauf l'Ogapi, que personne ne parle, sauf 14 personnes sur Terre. Hein, d'accord. Et puis, progressivement, toutes les communications électroniques, téléphone, télévision, tout passe à l'Ogapi et traduit automatiquement. Il y a une sorte de... Il n'appelle pas ça un virus informatique, mais c'est un peu l'idée. Donc les gens sont désespérés, tout le monde essaie d'apprendre l'Ogapi, mais avec 14 locuteurs vivants, on manque un peu de profs, quoi. Et du coup, tous les leaders du monde qui ne peuvent pas se payer un interprète Ogapi, parce que du coup, ils sont devenus vraiment demandés, sont obligés de se rencontrer en personne, et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de guerre. Voilà. On va revenir au roman. Donc, le Littératron. Ouais, le Littératron, c'est le plus rigolo. C'est pas le plus SF. Donc, comme il me reste que 21 minutes avant l'arrivée des Grenadiers Lorrains... Je vais devoir shorter un peu. Le Littératron, dont j'ai lu des extraits aux gens qui étaient là au début, c'est l'histoire d'un ambitieux qui sait rien faire, mais qui sait se vendre. Et qui va vendre un projet qu'il va appeler le Littératron. Parce que ce jeune homme, dont le début de vie ressemble beaucoup à celui de Robert Escarpi, donc il s'appelle Méhadec Le Guern, né à Gujan-Mestras. Gujan-Mestras, c'est au fond du bassin d'Arcachon, vous le savez tous, en 1935. Et il fait des études d'anglais à Bordeaux. Comme il est responsable d'étudiants, il rencontre quelqu'un au ministère qui lui présente quelqu'un d'autre, tu vois. Et puis il y a un côté sandalien parce qu'il monte grâce à ses maîtresses. Et il rencontre aussi le vieux président Falampin, qui a dû être président du Conseil à un moment ou à un autre sous la 4e République, il y a tellement de gens qui l'ont été, et qui lui donne des bons conseils. Le mieux, c'est encore un suffixe. Et de tous les suffixes, mon ami, le meilleur, c'est tron. Cyclotron, bêtatron, positron. Avec un tronc bien placé, vous raflez des millions et vous avez toutes les priorités. Alors, voilà, Le Guern pique à d'autres l'idée du Littératron, trouve des crédits pour le faire fabriquer, parce que bien sûr, il a rien au début, trouve des gens pour faire vraiment la fabrication, et le Littératron existe. Et le Littératron va servir à fabriquer des livres artificiels. Le Littératron va surtout servir à mettre au point une propagande électorale infaillible pour faire gagner le candidat de l'UNR dans la circonscription de Pédouillac. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une enquête. Donc, c'est marrant parce qu'il se moque un peu de ce qu'il faisait lui-même. On fait une enquête, on fait une sorte de synthèse des phrases que les gens disent les plus souvent, et c'est ça, le discours électoral. Et ça donne la politique, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est tout copain, fripouille et compagnie. Si on en pendait quelques-uns, ça irait mieux. Les plus intelligents, c'est bien les plus bêtes. Et puis, ça continue comme ça. Et puis ensuite, on trouve un candidat. Il faut que le candidat utilise ce discours, et ça marche à tous les coups. Et la seule fois, alors le candidat, c'est Joseph Blédur. Il avait le menton noble, le nez d'aigle et l'œil vide. On ne l'avait jamais connu d'opinion, ni même d'idée. Mais comme il avait marié sa fille au neveu d'un sous-secrétaire d'État, il avait jugé élégant de prendre la carte de l'UNR. Et il est élu, bien sûr. Et... Meredek Le Guerne, Meredek, je pense que tout le monde sait quelle est l'allusion. C'était un quartier de Bordeaux, hein, d'accord. Ça l'est toujours, mais il a beaucoup changé. Il a été rasé dans les années 70 pour faire le Bordeaux 1980, qui est resté une espèce de verrue, mais bon. Alors, est-ce que Escarpit, qui connaissait bien la science-fiction, on reviendra dessus, considère le littératron comme de la science-fiction? Non, il l'appelle roman picaresque. Mais, bien sûr, il y a cette... Alors, c'est dans un présent qui est notre présent, il y a des personnages qui sont des caricatures de la politique de son époque, 64, l'UNR, pour les jeunes, c'est l'ancêtre de ce qui est devenu le RPR, puis l'UMP, puis je ne sais plus quoi, hein, d'accord. Bon. Voilà. Union pour une nouvelle République, c'était... C'était l'UDR après l'UNR, je crois.
C'est ça.
Ouais, d'accord. Et donc, il dit je me trouvais à l'époque, Escarpit dit sur son livre, je me trouvais à l'époque avoir les pieds singulièrement cassés par cette variété d'arrivistes particulièrement nocives qui pratiquent l'esbrouf à la technologie. Et donc, voilà, il choisit de faire un roman picaresque. Alors, il a donné une suite 10 ans plus tard au Littératron, ça s'appelle Le Ministricule. Le Ministricule, en voici un exemplaire, Édition Club. Je saute parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est probablement des bouquins dont je vais parler le moins intéressant parce qu'il ressasse beaucoup. Il reprend les mêmes personnages, il dit ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Il parle de mai 68, qui s'est produit entre les deux, entre 64 et 74, vous suivez, en s'en moquant pas mal. Le Guerne est bien sûr le même, il y a des chutes et des montées, son but est toujours de se faire un maximum de fric. Il y a des passages très rigolos sur le Gascon, parce qu'il faut reconstituer un village typique, mais pour faire un bon village typique, il ne faut pas mettre des vrais Gascons, il ne faut pas mettre des vrais Landais, il faut mettre des étudiants d'IUT conformes et à qui on fait enseigner le Gascon. Et le Gascon, bon, je ne pouvais faire confiance, je cite là, je ne pouvais faire confiance aux parler abattardis par l'école, le régiment, la radio, la télévision, qu'employaient encore parfois les vieux habitants du truc de la truc. L'Institut d'études occitanes me répondit que le dialecte du truc de la truc était une variété particulière du patois du Marensin, matinée de tournure médocaine et girondine, dont il n'existait qu'un spécialiste à l'université de Leningrad. Stakhansky parlait un français exécrable, mais un gascon d'une telle pureté que le langage des autochtones en fut immédiatement amélioré. Voilà, bon. Les Somnambidules est un roman vraiment bizarre. J'ai découvert que cette année, parce que je me suis replongé à fond dans Escarpit. Les Somnambidules, le pitch, comme on ne disait pas à l'époque, c'est que les pays, les uns après les autres, avaient commencé à dormir et à rêver qu'ils étaient éveillés. Mais en même temps qu'ils rêvent qu'ils sont éveillés, ils rêvent que certains des autres pays dorment et d'autres pas. Et quand on passe d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes. Hein? Et donc, on voit par exemple le Premier ministre britannique, Egbert Whatnot, qui reçoit les ambassadeurs de France et d'Allemagne, chacun affirmant que son pays est éveillé et que l'autre dort. Et il y a des décalages qui font que si on va d'un pays A à un pays B à un pays C et qu'on revient au pays A, comme à chaque fois on a une image différente, le pays A qu'on retrouve n'est plus le même. Et donc on a différentes versions. Hein? Imaginez ça, si vous voulez, comme un parking avec des niveaux et des rampes qui mènent entre les parkings. Ou, pour prendre une image plus simple, imaginez la surface de Riemann du logarithme d'un polynôme de degré n, d'accord? Avec ses branchements, voilà. Hein? C'est un peu dur de faire des figures, mais je peux les faire avec les mains. Et dans le livre, il y a un professeur qui l'explique à un autre personnage avec des serviettes en papier sur une table de restaurant. Si on admet que les États-Unis, je cite, si on admet que les États-Unis qui se rêvaient eux-mêmes dans leur propre sommeil étaient des États-Unis 2, ceux avec lesquels le gouvernement français menait des négociations étaient des États-Unis 3. Donc c'est le rêve américain matérialisé 20 ans avant Roland Wagner. Et c'est aussi quelque chose comme la chronolise 2 ans avant Michel Jury. C'est un roman très étonnant. Il est vrai que au bout d'un moment, il se préoccupe plus trop de la logique de son truc, l'intrigue part un peu en couille. Il y a beaucoup de rigolades aussi. Il y a des considérations sur ce qu'il appelle les spirales transoniriques qui permettent de passer en passant par différents pays d'une version à une autre d'un pays. Il y a une France parallèle par exemple. Alors, dans la France normale, on est en 71 et c'est le président Scooby-Doo qui est au pouvoir. Et il a un ministre qui s'appelle Tristan Verjus. Alors, je ne sais pas si c'est une caricature précise, mais en tout cas, dans une autre France parallèle, la France est devenue une dictature policière. C'est Verjus qui est le chef. Tout le monde se salue en disant « Hi Tristan !» et les feux de circulation sont bleu, blanc, rouge. Voilà. Cela dit, bon, c'est léger, mais il y a de l'imagination. Et il y a un moment des gens qui doivent voyager en rêve vers d'autres rêves, hein, parce que c'est au sein des rêves que se jouent quand même des choses. Et on leur explique qu'ils peuvent rien emporter de matériel. Vous n'aurez que ce que vous rêverez. C'est une formule qui vaut bien, nous battrons avec nos rêves, mais je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Je saute et... Comment ? Et c'est un précurseur de l'Inception aussi, il y a des niveaux de rêve. Et il se balade d'un rêve à un autre consciemment. Bon, enfin, il y a tellement de précurseurs de l'Inception. Et je ne sais pas s'il avait lu Ubik, par exemple. C'est sorti en 69, il aurait pu, hein, il était angliciste, il lisait de SF en anglais... il n'en parle pas de Philip Dick à ma connaissance, mais je n'ai pas du tout lu toute l'œuvre de critique d'Escarpit sur SF, parce que ça existe aussi. Joseph Alterac la connaît mieux que moi. Mais Joseph Alterac n'est pas là, tant pis. Ouais, voilà. L'autre grand roman de SF d'Escarpit, c'est... Voilà, il faut qu'on rêve tous très fort à Alterac et on le fera apparaître. C'est Honorius Pape. Alors, rien à voir avec le vrai pape Honorius qui a existé. Celui-ci est sorti en 67, je ne suis pas ordre chronologique. Et c'est un roman post-catastrophe. La catastrophe, c'est un énorme vide, je cite, c'est soudain créé dans les profondeurs du globe, et la Terre s'est ratatinée comme une pomme cuite, les fragments durs de son écorce tendant à se rejoindre, tandis que les océans couvraient les continents effondrés. Bon, c'est du baratin SF. Prétexte pour que, qu'est-ce qu'il reste comme Terre émergée ? Il reste un archipel dans l'entre-deux-mers. Donc les îles de la Benoge, Quinsac, Bouliac, Florac, les îles Macaire avec Saint-Macaire, Cadillac, Créon, La Réole, les îles Gavache, qui sont dans la gavacherie, c'est-à-dire un îlot linguistique de l'entre-deux-mers où les gens parlent français depuis le XIVe siècle. Alors que bien sûr, à cette époque-là, personne ne parlait français dans cette zone-là, mais il y avait eu des zones dépeuplées par la peste et peut-être les guerres aussi, qui ont été... recolonisés par des colons saintongés, donc de langue française, et pas gascon. Hein, et donc la gavacherie est devenue aussi son propre archipel. C'est un peu des barbares, les gavaches, hein, faut s'en méfier, ils font des sacrifices humains. Ils sacrifient des gens dans un volcan et au dieu Haroun. Ben oui, c'est Haroun Taziev, bien sûr, hein, je dis ça pour les jeunes. Et puis il y a aussi vers le sud l'archipel du Marensin, qui est donc dans les Landes. Et puis. L'archipel des Esquelmendi. Alors les Esquelmendi, c'est des Basques, donc c'est rude. Hein. Bon, le Marensin, c'est des Landais, c'est encore pire. Et le chef des Esquelmendi s'appelle le Tchar. On dit Tchar pour faire court. Le titre complet est Charles de Gaulac. Bon, ça va, ils ont capté. Alors, les îles du Marensin, c'est peuplé de Landais. Alors, les Landais, les Bordelais parmi nous, reconnaîtront la description. Les Landais ne sont pas particulièrement commodes, surtout ceux de la brousse. Benogiens, Gavaches et Macariens ont des comptoirs sur les côtes, mais à l'intérieur, il n'y a que nos missionnaires qui aient jamais pu pénétrer. Ils font ce qu'ils peuvent, du bien de temps en temps. L'anthropophagie a pratiquement disparu. Et c'est déjà quelque chose. Mais les Landais ont toujours le même goût pour les collections de crânes. Bon, voilà. Alors, il y a des langues différentes dans chaque archipel. Les Gavaches parlent français, bien sûr. Les Macariens parlent une sorte de français régional avec pas mal de gasconisme. Les Landais parlent gascon, carrément. On peut supposer que les Esquelmendi parlent gasque. Et les Benogiens, eux, sont les plus avancés. Ils ont un régime très curieux, qui est une république statistique. Ils aiment la science-fiction. Ils essaient de remettre à la bonne la science-fiction, parce que les Benogiens, c'est, visiblement, on sent que c'est le côté un peu socialiste progressiste, et eux, ils parlent le franglais, codifié par Saint-Étienne. c'est des modernes. Alors, si vous voulez, il s'est passé une centaine d'années depuis la catastrophe, la vie a repris, l'Église, bien sûr, ne parle plus du tout de célibat des prêtres, parce que le seul commandement, c'est croiser et multiplier, parce qu'il y a eu des grosses pertes pendant la catastrophe. Il y a des universités. Escarpit cite un titre de thèse de doctorat. Les structures romanesques de l'angoisse dans les romans de James Bond. Et il précise. La plus grande partie de l'érudition littéraire gavache repose sur les quelques douzaines de volumes plus ou moins endommagés qu'on a retrouvés dans les ruines du bureau de tabac voisin de la station-service de Sauveterre. Et puis, il discute avec le gars qui a fait cette thèse, il discute sur la pensée religieuse de James Bond, et le gars lui signale un de ses disciples, dont on a seulement un fragment d'une trentaine de pages. Il dit « C'est sans doute un moine espagnol qui dissimule son véritable nom sous l'invocation de Saint-Antoine. » Et ensuite, il précise que le texte pose un gros problème linguistique parce que ça a l'air d'être du français, mais quand on regarde, la moitié des mots ne sont pas dans les glossaires connus du français. Bon, voilà, alors qu'est-ce qui se passe? C'est un flashback que Honorius, qui a 96 ans, raconte un peu sa vie et en même temps l'histoire des différents archipels survivants de la catastrophe. Et pourquoi il a été nommé pape? Il n'y avait rien, il était né le jour de la catastrophe, c'est tout. On l'a mis pape parce qu'il y avait une sorte de maître secret du monde qui était les participants à un congrès de sociologie qui se sont retrouvés bloqués dans l'entre-deux-mers parce que la nuit de la catastrophe, ils étaient en autocar entre Toulouse et Bordeaux. Et ils décident d'avoir un pape parce qu'on a besoin d'une autorité morale. Donc ils prennent un gars qui... Ils le font pape, ils créent une église. Mais cette église, en fait, ce n'est pas le pape qui va décider ce qu'on fait. Non, 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 non. Alors d'abord, il faut suivre les commandements de Saint-Iphope et Saint-Inède. Inède, c'est Institut National d'Études Démographiques. Et Saint-Inède, c'est celui qui explique qu'il faut croître et multiplier. Et les prêtres ne sont pas célibataires, et les papes non plus. Hein. Et puis, en fait, il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur qui est resté en état de marche près de Bouliac, je crois, ou de Quinsac. Quinsac plutôt, et qui est à côté d'une grande caverne pleine de produits culturels du passé, mais qui est secrète et soigneusement fermée. C'est important dans l'intrigue. Et Honorius, le pape, est le seul à aller consulter les oracles d'ordinateur. Et l'ordinateur suit un plan. Et ce plan lui explique précisément comment il va devoir guider l'évolution sociologique des humains survivants. Alors il dit des choses comme ça. La période d'intolérance avec Inquisition n'a duré que 5 ans et 43 jours, à peine un mois de plus que ne le prévoyait l'ordinateur. Dans 6 mois, 8 au plus tard, je pourrai lancer l'opération œcuménisme. Je respecte le plan, etc. Bref, là, clairement, Escarpit parodie Fondation. Hein. Et il connaissait bien Asimov et il aimait beaucoup Asimov. Mais alors, malheureusement, le plan part un peu en vrille parce qu'il y a beaucoup de conflits internationaux. Et donc, Honorius fait ce qu'il peut. En particulier, il essaie de rencontrer un représentant de la tribu des Darrigadas qui vient des Landes, là. Et alors, il y a une description quand même. Un guerrier landais en grand costume de guerre est un spectacle assez impressionnant. Ça pourrait même impressionner Georges Bourman. Hein? Jambes et torse nus, bagne en poil de mouton, hapshot d'acier à la ceinture. Tout le monde sait ce que c'est qu'un hapshot? C'est une espèce de serpe primitive, là, qui est un peu grand comme ça, avec un manche, qui sert à gemmer les pains. Et si tu le mets sur quelqu'un, ça fait mal. Hein? Poncho de laine sur l'épaule, celui-ci mesure près de 2 mètres. Il y a peut-être de la famille du côté de chez Francis aussi. Hein? Sous le béret en accent circonflexe, ses yeux noirs brillent dangereusement, donnant une expression féroce à son visage en lame de couteau. Mais bon, il respecte le pape et il a une conversation avec le pape qui lui dit quand même « Vous avez massacré beaucoup de missionnaires » et l'autre lui répond « Ah, c'était ceux de Pissos, père !» Pissos ? Pissos, c'est l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais jeune. C'est vrai ! Je passais mes vacances à Richette, qui est maintenant sur la commune de Pissos. Hein, vous pouvez vérifier, entre Pissos et Mousteil, au vieux Richette. Et c'était ceux de Pissos, père, des mauvais. Hein? Et malheureusement, les dialogues sont en français. Il y a juste un petit bout de dialogue en gascon dans le livre. Donc entre Honorius, qui parle gascon quand même, bien sûr, et le guerrier landais. Kusuyu pai kaimbiat benes. Benes kumba, atata au pai. Kum tapers guyat, leum pai. Dundes. Que sui de us d'arregado, Spy. Ils m'ont entendu, hein? Vous avez entendu la musique?
Oui.
Télépathie des mecs. Je reprends sur Honorius Pape. En fait, quel est l'essentiel de l'intrigue d'Honorius Pape? C'est ce problème. Est-ce qu'il faut révéler aux habitants du monde nouveau qui n'ont pas connu le monde d'avant les trésors culturels qui ont été entreposés dans cette caverne secrète près de Quinsac, qui était probablement une préfiguration de la collection de Philippe Peignard. Hein, mais, pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe Peignard est un fan bordelais qui vit à Quinsac. Bon. Qui collabore à KWS, que vous connaissez tous. Ah, pas de référence, les mecs. Bien. Il veut savoir si on peut révéler... Comment ? Possible, possible. Comment dire, il illustre ce dilemme. Est-ce qu'il faut révéler les trésors du passé aux gens du présent, qui sont en train de reconstruire une culture par eux-mêmes, mais qui est bien sûr beaucoup plus rudimentaire, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas de technologie. J'ai oublié un archipel. C'est l'archipel des Cro-Magnons, qui se situe dans la Dordogne actuelle, du côté de Lascaux et des Aisy. Et dans l'archipel des Cro-Magnons, il s'est passé un développement culturel intéressant. Lors de la catastrophe, la salle de cinéma du Bug ne fut pas entièrement détruite. Les appareils de projection étaient en état de marche, il ne leur manquait que le courant électrique. Et donc, les Cro-Magnons se débrouillent pour faire des dessins animés à la main, et pour faire tourner. Il y a un jeune homme qui est un séminariste, mais qui est aussi un artiste à ses moments perdus, qui fait des dessins animés édifiants pour le catéchisme, que rencontre le pape Honorius. Il s'appelle François Carsac, bien entendu. C'est un Cro-Magnon, hein, d'accord. Et il est donc à Madour, et il fait par exemple un dessin animé sur l'histoire de Jonas et la baleine. Et Honorius se dit, ça rappelle quelque chose, il va chercher dans sa cave au trésor, et il a un extrait du Pinocchio de Walt Disney, avec la baleine, et il le montre au jeune François Carsac, qui est quand même un génie de son art. Et le jeune François Carsac a une réaction qui n'était pas du tout celle qu'espérait Honorius. Et il y a encore 2 minutes, hein. Il dit « Cette bande est d'une perfection inhumaine, après elle, il n'y a plus rien à chercher, rien à découvrir, rien à espérer. » Et donc, il brûle tout ce qu'il a fait, il arrête de faire ce qu'il faisait, qui était merveilleux. Et du coup, Honorius en tire la conclusion qu'il vaut mieux détruire, par inondation, la fameuse grotte de Quinsac, pour laisser le monde se créer à nouveau. Ça, c'était l'aspect sérieux du bouquin. Et maintenant, j'en viens à ma conclusion, qui ne prendra qu'une demi-heure, vraiment. Est-ce que tout ça est de la SF d'abord? Alors, moi je pense que les 5 ouvrages que j'ai cités, c'est-à-dire les 4 romans. Alors, je mets de côté les romans jeunesse, dont le statut SF n'a jamais été en question, c'est clairement de la SF pour la jeunesse. Il y a 5 romans, 4 romans et un recueil de nouvelles pour les adultes. Le Littératron et le Ministricule, c'est un peu borderline SF parce que ça se passe dans un présent qui est notre présent, le monde n'est pas vraiment modifié. Mais il y a des inventions extraordinaires de plusieurs sortes. Dans le Ministricule, il y en a d'autres que je ne détaille pas. C'est un peu comme du Jules Verne. Ça peut se discuter pour savoir si c'est de la SF. Par contre, certaines des nouvelles du Fabricant de Nuages et les Somnambules et Honorius Pape ont clairement des formes qui sont celles, pour les Somnambules, du roman dickien, univers multiple hallucinatoire. Pour Honorius Pape, du roman post-catastrophe à la Ballarde, qui se préoccupe pas trop de la technologie, mais qui s'intéresse aux effets ici sur la culture de la catastrophe et du monde nouveau. Et qu'est-ce qu'en disait Escarpit lui-même? Eh bien, Escarpit lui-même, dans la préface, l'avant-propos d'Honorius Pape, dit « Si l'on classe mon roman dans la science-fiction, j'accepte la catégorie. Mais refuse toute parenté avec les bétifications attristées sur le règne des robots et des cerveaux mécaniques qui expriment ce que les intellectuels de notre temps croient être un humanisme. » Parce que Escarpit, lui, utilise l'ordinateur, n'en a pas peur, et il a le même point de vue qu'Asimov, en fait. Asimov explique qu'il a écrit les robots pour lutter contre le complexe de Frankenstein. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est des machines qui peuvent tomber en panne, c'est des machines avec lesquelles il faut jouer, mais c'est pas la race qui va nous remplacer, si vous voulez. À qui pense Escarpit quand il fait cette petite pique sur les intellectuels qui se croient humanistes? Il précise, il dit « À l'époque où j'écrivais ce livre, un metteur en scène cherchait à remuer les foules en montrant dans quelques cités futures des pompiers spécialistes de la destruction des livres par le feu. Comme on le verra, c'est un problème qui s'est aussi posé à Honorius. Il l'a résolu à sa façon, je ne suis pas sûr qu'elle plaira à tout le monde. » Évidemment, il a choisi de détruire toute la culture du monde passé. Alors, Escarpit, en fait, a une longue histoire avec la science-fiction. Il en lisait quand il était jeune, il en a lu certainement en anglais comme angliciste. Il a écrit en 54 un article dans Le Monde qui s'appelle « Le ghetto de la science-fiction », qui a provoqué une réaction assez agacée de la revue Fiction, parce qu'il l'a critiquée. La revue Fiction a toujours été très susceptible. C'est pour énerver André François que je dis ça, mais André François est d'un calme olympien. C'est très bien. Il semblerait, parce que j'ai pas pu trouver cet article de 54 dans Le Monde, que d'après la paraphrase qu'en fait Roger Bozzetto dans un autre article de 84, que Escarpite avait peur que, en surjouant la qualité de la SF, on ne s'attire à un retour de flamme par des gens qui prendraient les plus mauvais bouquins de SF, parce que Escarpite était bien conscient qu'il y avait de très mauvais bouquins de SF. Il s'en moque d'ailleurs à un moment dans Les Somnambules. Il se moque de Peter Randa, hein, plus spécifiquement. J'ai pas le temps de vous lire le passage, mais c'est à pisser de rire. Mais par contre, il respectait la SF, et il respectait la SF classique. J'ai sollicité Gérard Klein, qui m'a répondu il y a une semaine, et qui m'a dit que Escarpite avait dit plusieurs fois grand bien de la SF dans Le Monde, et qu'il a peut-être pesé sur la décision de faire écrire sur la SF par des gens comme Guamard et ses successeurs dans Le Monde. Puisque Escarpite, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le truc pour lequel il est le plus connu, c'est que de 49 à 79, plusieurs fois par semaine, il écrivait un billet d'humeur un peu ironique dans Le Monde. Il a dû en écrire entre 3 et 6 000, je ne sais pas exactement le nombre, hein, d'accord. Mais 30 ans de billets dans Le Monde, donc tous les gens qui lisaient Le Monde voyaient le nom d'Escarpite très souvent. C'était dans le temps qui lui restait après les romans, l'université, enfin bon. Et quand on lui soumet le questionnaire de Marcel Proust, il a répondu deux fois, à quelques années d'intervalle. J'ai trouvé ça dans le dossier qui est dans l'édition Club du Ministricule, celle-ci. La première fois, alors il y a une question sur quels sont ces... j'ai pas dit la question, ce serait quand même ça, c'est un peu nul. C'est vos auteurs préférés, vos auteurs favoris en prose. Alors la première fois, il avait répondu Jonathan Swift, J.K. Chesterton, Evelyn Hawke et Marcel Aimé. D'accord ? Et la deuxième fois, il répond toujours Swift, toujours Chesterton, mais après, les classiques de la science-fiction américaine. Hein ? Et visiblement, il y a Asimov, mais il y en a d'autres. Je vais vous lire un passage de l'enfant qui venait de l'espace. Alors, Isaac Asimov est en train d'écouter le récit extraordinaire que lui fait Suzanne Calvin de son aventure de quelques années avant, quand elle était jeune et vraiment canon. Et à un moment, il l'interrompt et lui dit « Ma chère enfant, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas du tout doué pour la science-fiction. Mais tout ce que je viens de vous raconter est vrai. Je n'en doute pas. Mais vous êtes un personnage d'Isaac Asimov. Et votre histoire n'est pas du tout de l'Asimov. Non, pas du tout. Le truc temporel, c'est du Van Vogt de la mauvaise période. Il y a une pointe de Shakley, une pointe de Heinlein, tout cela dans un décor inspiré de la guerre des étoiles. » C'est assez rigolo de trouver ça dans un roman pour les enfants, mais enfin, Escarpite a toujours aimé le décalage. Et comme il disait, je préfère Balzac à Lamartine et San Antonio à Françoise Sagan. Dans la postface des Fabricants de nuages, il explique que c'est du fantastique, mais le fantastique, il voit le fantastique comme un truc très englobant, et il dit, bon, une des formes les plus répandues du fantastique emprunte de nos jours le langage de la science-fiction. C'est un genre où excellent les savants comme ils excellent dans l'humour, sans doute parce qu'ils y trouvent ce que ne leur apporte pas la routine de la recherche. Il y a bien sûr de la science-fiction de pacotille comme il y a de l'ersatz de fantastique, mais la meilleure est celle qui prend la science au sérieux, assez au sérieux en tout cas pour rêver sur tout ce qu'elle ne sait pas. Donc voilà, Escarpite aime la SF. Par contre, est-ce que la SF aime Escarpite? Alors Gérard Klein dit que oui. Alors je suppose qu'il écrit avec un certain humour, c'est dans son message il y a une semaine là. Je peux t'assurer que Robert Escarpite était très bien vu dans le milieu SF des années 60 et suivantes. Au moins au niveau le plus élevé, constitué de la rédaction de fiction. Disons Dorénieux, Guamard et moi-même. Texto, copier-coller de son email. Il y a une semaine, hein, je veux dire, c'est pas du vieux Klein. Et puis voilà, apparemment, bon, je crois me souvenir que le littératron a fait l'objet d'un compte-rendu très élogieux. Alors Christine Luce, qui a étudié la question il y a quelques années, Christine Luce, Sirocco Jones, hein, a fait un très bon article sur Escarpite que je connaissais pas quand je me suis lancé là-dedans, qui est sur BDFI. Hein. Et elle a un peu l'impression d'un malentendu, elle a un peu l'impression que la SF française a peu pris en compte Robert Escarpite comme auteur de SF. Alors pourquoi, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas tellement Escarpit dans les collections de SF? Il aurait pu être réédité en poche. Il y a peut-être des raisons commerciales. Je ne pense pas que ce soit un choix de l'auteur, mais qui sait. Peut-être qu'il y a eu des rancunes tenaces à la suite des critiques qu'il avait fait sur Fiction en 54, mais quand même, ce n'est pas très vraisemblable. Peut-être aussi que Escarpit aimait bien se tenir en marge de tout. C'était quelqu'un qui aimait le décalage. Il était compagnon de route du Parti communiste, il n'a jamais pris sa carte, effectivement. Il était humoriste, il explique que l'humour est de droite, alors que clairement, il n'était pas de droite. Il était universitaire, il va se mettre dans les IUT, qui n'était vraiment pas le truc le plus prestigieux. Il est auteur de SF, mais en même temps, il dit que ce qu'il écrit, c'est peut-être de la SF, peut-être pas. Bon, voilà. À mon avis, il y a surtout une autre raison, qui est le problème de l'humour, comme disait Anouk. Le problème de l'humour, c'est le suivant, c'est que l'humour et la SF se battent pour, rivalisent pour le contrôle d'un même territoire, c'est-à-dire la déviation par rapport à la normalité, en un certain sens. L'humour dit des choses sans y croire, dit des choses pour faire rire avec le langage, en détachant le langage du sens, parfois, alors que la SF, au contraire, prend des expressions qui peuvent être imagées et métaphoriques, et les littéralise. En tout cas, c'est la grande théorie de Samuel Delaney sur le mode de fonctionnement langagier de la SF, c'est de prendre des choses qui seraient... L'exemple qu'aime bien Samuel Delaney, c'est « Her planet exploded ». Sa planète explosa. Il dit « ce serait, on mettrait, ou Her world exploded ». On mettrait ça, « Her world exploded », dans un ouvrage de littérature générale. Ça signifie « elle est désespérée, elle ne sait plus où donner de la tête ». On met ça dans un bouquin de SF, ça veut dire « il y a une planète qui fait poum, vraiment ». Voilà. C'est la littéralisation comme procédé qu'utilise la SF. Et effectivement, ça va mal avec l'humour, hein. Je passe sur l'exemple du petit duo au crabe qui a pissé de rire, mais on n'a pas le temps de pisser de rire. Et Escarpit, alors, donc voilà, j'avais écrit un article là-dessus dans un fanzine il y a très longtemps. SF et humour font mauvais ménage. La SF, comme le dit Escarpit, a besoin de prendre des choses au sérieux. L'humour a besoin de décaler par rapport au sens.
Il l'a jamais lu chez Clay, il l'a pourtant cité.
Il l'a lu chez Clay. Et en fait, si tu veux, il y a un parallèle entre SF et humour. J'ai choisi, parce que j'aime bien pousser le bouchon un peu loin, de considérer que ça crée une incompatibilité par rivalité. Escarpit a une théorie sur l'humour. Cette théorie sur l'humour est en particulier appuyée sur le texte de Jonathan Swift, Une modeste proposition, que vous connaissez tous. Hein, l'idée d'une modeste proposition, c'est qu'il explique qu'il y a des familles en Irlande, ils font trop d'enfants parce que c'est les catholiques. La solution, bah, c'est qu'il faut que les petits Irlandais soient utilisés comme animaux de boucherie. Hein. Et Escarpit dit, il a fait l'expérience avec ses étudiants, il essaie de leur présenter le truc en leur expliquant que c'était une proposition réaliste. Et les étudiants se prennent au jeu, et du coup, le texte, ils le trouvent vraiment, vraiment pas drôle, mais alors vraiment scandaleux, quoi, vraiment horrible. Et donc, il en tire cette conclusion que l'humour, qui crée une irruption de l'excentricité sur un fond de normalité, a besoin d'une suspension d'évidence. C'est-à-dire que c'est évident qu'on ne mange pas des enfants. Hein. Et le texte devient humoristique parce que ben on enlève cet axiome. Et comme en SF, on enlève un axiome, on en rajoute un. Et comme ensuite, on en tire les conséquences, méthodiquement. Et si c'est un texte humoristique, bien sûr, on est décalé par rapport à ce texte et on rigole. Si c'est de la SF, on n'a pas la même chose. Hein, bon, c'est un peu comme le fameux « willing suspension of disbelief », mais là, c'est la « suspension of incredulity ». La suspension de l'évidence, excusez-moi. Voilà, la suspension des présupposés. Et d'ailleurs, Escarpit commente un peu plus loin, donc c'est dans son que sais-je sur l'humour, ces trucs sur de Swift. La démarche est exactement la même que celle des mathématiciens qui remplacent cette évidence, qui est le postulat d'Euclide, par un autre postulat et raisonnent ensuite de façon parfaitement rigoureuse. Ils aboutissent ainsi à des univers absurdes pour le bon sens. Le choc de ces univers plaqués sur le nôtre provoque d'ailleurs aisément des effets comiques, comme on peut le voir dans les livres de Gamow, qui était un vulgarisateur scientifique, et dans maints récits de science fiction humoristique. Je dis science fiction parce qu'il l'écrit en italique et je pense qu'à l'époque il le considérait encore comme une importation de l'anglais. Et il revient là-dessus. Hein. Je serais tenté de dire que l'humour est une forme de fantastique ou que le fantastique est une forme d'humour tant ils ont de ressemblance. L'humour minimise d'avance le vertige encouru, la nausée passagère. Le fantastique, si complet. Et donc, le fait que ce soit de l'humour a certainement joué un rôle dans le fait qu'on ne considère pas Escarpit comme un écrivain de SF, parce qu'il était marqué dès le début « humour ». Mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner à relire ces bouquins comme des bouquins de SF humoristiques, et c'est pas moins de la SF que Shakley ou Roland Wagner, par certains côtés. Merci.